Donc, sans plus tarder, on attaque ce qui s'appelle la session 2 et ce qui est finalement la session 4, si on calcule bien, qui s'appelle « Évolution des pratiques individuelles et familiales », avec deux interventions dans l'ordre. Stéphanie Omola, qui est à ma droite, qui est ATER au Collège de France, à la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine, qui va nous parler de divination. Alors, on est dans des pratiques qui vont être des pratiques de transposition et de déterritorialisation. Et quelqu'un qu'on découvre aujourd'hui, qui s'appelle Marc Lebranchu, on ne sait pas qui c'est, on ne le voit pas depuis tout à l'heure, qui appartient à un laboratoire inconnu, organisateur quand même de ce colloque, qui va nous parler des taoïsmes en France. Donc, sans plus tarder, à 16h22, je laisse immédiatement la parole et je vais essayer d'être très rigoureuse sur l'économie du temps. Merci beaucoup.
D'accord. Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc un travail qui porte sur les pratiques divinatoires des Chinois qui vivent en France. Je m'appuie sur des observations et des entretiens que j'ai menés auprès de clients des services divinatoires et auprès de praticiens, donc des spécialistes. Alors, ce qui frappe d'emblée, quand on compare le paysage de l'offre divinatoire à Paris et avec n'importe quelle ville de Chine, c'est l'absence totale de visibilité en France des praticiens des arts divinatoires. Alors, les arts divinatoires sont exercés par des spécialistes laïcs. Ils comprennent, par exemple, ce que vous connaissez sans doute, le feng shui, ou encore l'horoscopie, qui est une sorte d'astrologie chinoise. En Chine, on trouve aux alentours des temples des cabinets de devins qui ont des enseignes très voyantes et qui annoncent les services divinatoires. C'est le cas aussi à New York. Je vous ai mis une photo ici qui a été prise par Fang Ling, dans le quartier de Flushing. Donc on voit des affiches avec le nom du temple et également, verticalement, l'annonce de services divinatoires, et sur la petite affiche à droite qu'on ne voit pas très bien, le détail des services proposés par un devin qui travaille dans le temple. Alors, rien de tel n'est visible à Paris, à tel point qu'on peut se demander, est-ce qu'il y a vraiment des devins chinois à Paris? Où est-ce qu'on les trouve? Et c'est précisément la question qui se pose à un Chinois de France qui voudrait consulter. Alors, est visible par contre un autre type de divination qui sont les tirages de fiches divinatoires, dont on a déjà un petit peu parlé dans les autres interventions. Ces tirages qui sont proposés dans plusieurs temples bouddhiques de région parisienne. Alors, et notamment le Faroiseux de Pantin, donc ce temple Wenzhou dont Junliang a parlé ce matin. On trouve le dispositif dit de Guan Yin, donc vous connaissez sans doute, vous voyez ces fiches divinatoires et les poèmes associés dans cette petite étagère. On va y revenir. Donc ce dispositif est à la disposition des fidèles tout au long de l'année et il est particulièrement utilisé aux alentours du Nouvel An. Alors je vais vous montrer un petit extrait du documentaire de Li Shouchun sur les migrants à Paris, Ma vie et mon vidéoclub préféré, où on voit une des héroïnes tirer des fiches divinatoires justement dans le temple Faroiseux. Alors, je l'ai calée ici. Voilà, donc c'est elle. Je ne sais pas si vous reconnaissez les images. Donc ici, on est au temple Farwa. Et donc, voilà, elle pratique ce type de divination. Elle sélectionne une fiche. Et selon le numéro qu'elle a lu sur cette fiche, elle va tirer le petit poème correspondant. Et donc, elle le lit en fonction de la question qu'elle a posée mentalement à la divinité. Ensuite, elle va consulter une personne, alors qui peut être un gardien du temple ou quelqu'un qui s'y connaît en fait et qui va l'aider à interpréter.
Je 用的那富士航船的也不是，
那个
人家是跟我讲让的。
职工呢？就
职工啊，可以。
可以啊。
嗯，职工我可以。
嗯嗯。好，没事情。
Voilà, donc en fait, cette jeune fille a beaucoup de difficultés, notamment, enfin, qui sont décrites dans ce documentaire. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'elle pose une question pour sa grand-mère, donc qui est en Chine, et une question pour sa sœur et pour elle-même, et toutes les deux sont en France. Donc, on reviendra sur cet aspect-là. Alors, je vais revenir ici. Voilà, donc. Donc, toujours le temple paroisseux. Non, je suis revenue en arrière. Voilà. Alors l'objectif de cette recherche, c'est d'étudier l'impact de la migration sur des pratiques religieuses qui, en Chine, semblent étroitement liées à la vie quotidienne et à un territoire. Comment, par exemple, les acteurs adaptent et justifient leurs pratiques à distance d'une religion chinoise? Je m'inscris dans un des questionnements qui est développé par ce projet collectif sur la religion comme un espace de négociation entre le local et le global. Je vais analyser ces questions du point de vue d'abord des clients des services divinatoires, puis de celui des spécialistes. Alors j'ai analysé le parcours de consultation des clients des services divinatoires et je me suis intéressée à deux questions. La première question, comment sont évalués dans le cadre divinatoire les risques et les opportunités liées à la migration? En effet, qu'elles soient envisagées pour une courte ou une longue durée, la migration fait partie des thèmes qui sont abordés avec les devins lors des consultations. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, les voyages sont toujours perçus comme une source de risque qui peut être évaluée et minimisée, soit par des stratégies d'évitement, c'est-à-dire choisir des jours appropriés pour voyager, soit par des rituels. Ensuite, la migration implique un changement d'environnement radical qui requiert une adaptation. Or, cette adaptation constitue précisément l'objet de l'analyse divinatoire qui va aider l'individu à s'adapter à l'environnement dans lequel il évolue. Alors, bien sûr, la migration présente des risques de tous ordres, d'autant plus si elle emprunte les voies dangereuses de la clandestinité. Mais, à quelques exceptions près, elle est presque toujours perçue comme une opportunité dans les analyses divinatoires. Ainsi, les discussions avec les devins ne portent pas tant sur la décision de migration ou de séjour à l'étranger, mais plutôt sur le moment ou la destination choisie, parce qu'eux peuvent comporter des erreurs qui vont être préjudiciables à l'avenir de la personne. Le premier cas que j'aimerais vous présenter, c'est celui de Chi Mei, qui est une étudiante à Paris, et qui travaille à mi-temps dans un salon de massage. Alors elle raconte comment elle a rencontré un devin qui est venu regarder le feng shui du salon dans lequel elle travaille et qui a ainsi analysé son destin. Il m'a dit que je n'avais pas de racines, que je devrais toujours compter sur moi-même et pas sur ma famille. Mes parents me disent tout le temps de rentrer en Chine, mais M. Wang, donc ce devin, a dit que je me sentirais très mal si je rentrais, que mon horoscope était fait pour être en France. On voit comme les analyses divinatoires fournissent un cadre global, qui est celui du destin, qui prend en compte l'individu dans sa totalité, pour penser la relation entre des enjeux locaux en France et locaux en Chine, qui sont parfois contradictoires. Et donc ce cadre divinatoire offre un espace de négociation à plusieurs niveaux, par exemple le sens qu'on va donner à son projet migratoire, ou encore un espace de négociation avec l'entourage qui est resté en Chine. Dernier point, dans le cas de Chi Mei que j'ai cité, mais dans de nombreux autres cas, c'est le projet migratoire qui a déclenché un intérêt durable pour la divination. Et c'est très fréquent en Chine où en fait de nombreux jeunes disent ne pas s'intéresser à la divination, jusqu'à l'université à peu près, où ils consultent pour la première fois pour des questions d'orientation et très souvent de séjour à l'étranger ou de départ à l'étranger. Deuxième question qui préoccupe les clients en France mais aussi en Chine, c'est où trouver un devin compétent et sûr. Compétent, c'est-à-dire qui est capable de produire des analyses qui sont perçues comme justes et sûres, ou on dit propres, Genjin, c'est-à-dire qui ne risque pas d'utiliser ce qu'il sait du client pour lui nuire par des pratiques de magie noire. Alors en France comme en Chine, cette question est résolue par l'activation des réseaux. Autrement dit, c'est par le bouche à oreille qu'on trouve un spécialiste de confiance. En France, le milieu socio-professionnel qui, selon les dires même des devins, consultent le plus, c'est celui des entrepreneurs et des commerçants, qu'ils soient de migration ancienne ou récente. Le cas le plus courant consiste à louer les services d'un devin pour améliorer le feng shui d'une boutique, d'un restaurant ou encore d'une habitation. On les sollicite aussi pour choisir le prénom d'un enfant Et même si je n'ai pas pu l'observer directement, pour déterminer la date d'un enterrement et examiner le feng shui des tombes. Le deuxième cas que j'aimerais vous présenter, c'est celui donc, du salon de massage où travaille cette jeune femme Chimei. Il est situé dans le 3e arrondissement. Et il y a quelques années, les employés se sont inquiétés de phénomènes étranges qui se passaient dans les cabines qui se trouvent en sous-sol. Et deux masseuses qui travaillaient dans la cabine numéro 1 ont soudain eu des problèmes psychologiques qui les ont obligées à quitter l'endroit. Alors une des employées connaît un devin, donc ce monsieur Wang dont j'ai parlé, et elle conseille à ses patrons de l'appeler pour regarder le feng shui du salon et pour contrer les agissements de ce qu'on soupçonne être un fantôme. Alors monsieur Wang vient, et lors de la consultation, donc il analyse le feng shui de la salle d'accueil, il conseille d'enlever les plantes vertes parce que les fantômes peuvent s'y cacher. Il conseille de déplacer la caisse pour améliorer les rentrées d'argent. Puis il se rend au sous-sol avec sa boussole. Et là, il étudie chaque cabine, surtout la première et la sixième où il y a eu les problèmes. Et il conseille de repeindre les portes de ces cabines avec de la laque rouge, ce qui permet de fixer les fantômes. Alors la consultation est facturée 200 euros. Elle a duré 1h30. Et après la consultation payante, M. Wang propose aux employés du salon de lire leur destin gratuitement. On voit comment les entrepreneurs, les commerçants mobilisent ainsi leur réseau pour trouver des spécialistes de confiance qui, il faut le dire, n'ont pas pignon sur rue et qui exercent d'autant plus discrètement que la plupart en fait ne déclarent pas leurs activités. Alors dans ce cas, la nécessité de trouver un devin chinois sur place est liée à une contrainte technique. Le praticien doit se déplacer en personne pour analyser le feng shui d'un lieu. Et donc si le feng shui, comme je le dirai par la suite, peut théoriquement être appliqué partout, c'est une technique qui est par contre étroitement liée à un territoire dans son application. C'est donc une pratique qui n'est pas sujette à une forme de dématérialisation qui touche d'autres types de divination, comme je vais y venir. En effet, la relation avec le devin est très différente lorsque sa présence physique n'est pas requise, comme dans le cas de l'horoscopie. Ainsi, les étudiants chinois ou les jeunes professionnels chinois, eux, consultent très peu en France. Les technologies de l'information, leur mobilité et aussi leur moindre intégration dans des réseaux chinois en France font que ces personnes gardent des liens étroits avec des devins chinois. Et si elles étaient habituées à consulter avant de venir en France, elles continuent la plupart du temps à fréquenter le devin qui les suit, entre guillemets, et elles leur rendent visite lors des retours au pays. Et cela est d'autant plus naturel que le rythme des consultations est sensiblement le même que celui des retours au pays, c'est-à-dire à peu près une fois par an ou une fois tous les deux ans même. Ainsi, Chimei, dont j'ai parlé, n'avait jamais essayé de consulter un devin en France avant de rencontrer ce monsieur Wang. Et elle profite de sa visite chez ses parents tous les étés pour rencontrer les devins qu'elle connaît en Chine. Alors, les consultations peuvent aussi se faire à distance, par téléphone et par email, mais peu par des sites en ligne dans lesquels les personnes n'ont pas confiance. Et donc, dans ces situations migratoires, les pratiques via Internet ou email s'inscrivent en fait dans le cadre de relations suivies avec un praticien. Cette relation a été initiée soit avec le devin avant le départ, ou encore par la distance, par l'intermédiaire de la famille. Et d'ailleurs, les devins qui ont une clientèle dans la diaspora s'en vantent, ça fait partie de du prestige d'avoir des clients dans le monde entier. Alors cette double pratique en Chine et en France ou encore à distance pose la question de la migration dans un contexte de globalisation, c'est-à-dire où la mobilité croissante des personnes et les moyens de communication font qu'on peut vivre dans deux pays à la fois et pratiquer sa religion ou consulter un devin à la fois en France et en Chine ou encore à distance. Est-ce qu'on peut parler de pratiques transnationales ? Alors, j'ai fait référence ici à une étude qui a été menée par Irène Masdeu sur les migrants Wenzhou en Espagne. Et elle décrit les pratiques divinatoires transnationales de ces migrants qui sont originaires de Xinjiang. Alors, en Espagne, il y a des temples chinois, mais ces migrants continuent à chercher protection auprès du dieu local de leur village. Et ils font ainsi tirer des bâtons de divination. Ils vont tirer des bâtons de divination dans ce temple quand ils retournent dans leur village. Mais la plupart du temps, ils le font à distance par l'intermédiaire de la famille. Et donc, on a donc un flux d'informations qui est dans les deux sens. Dans un sens, quand le migrant transmet à un parent la question à poser au dieu, il expose en même temps à sa famille ses conditions de vie et les préoccupations de sa vie quotidienne. Mais dans l'autre sens, le parent transmet la réponse divinatoire, mais pas seulement. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils accompagnent de l'avis de la famille et de tous les gens avec qui ils ont discuté. Donc on a un échange d'informations dans les deux sens. Alors on peut dire que ce flux est frappant dans le cas des tirages divinatoires, parce qu'ils impliquent des questions assez simples. Mais la qualité de l'échange doit être, je pense, plus nuancée quand on parle d'analyse plus approfondie, comme l'horoscopie, par exemple. Ainsi, Chimay explique, comme je l'ai déjà, dont j'ai parlé déjà, excusez-moi, un jour, j'ai demandé à ma tante d'aller consulter pour moi un devin, spécialiste d'horoscopie, qu'elle connaît en Chine. Je voulais savoir comment cela allait se passer pour moi en France. Je lui ai donné mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Ensuite, ma tante m'a raconté par téléphone. Mais je n'ai pas aimé, je n'ai rien retenu, car c'est dans le face-à-face qu'on apprend le plus. Ainsi, la présence physique du devin est indispensable dans la consultation de Feng Shui, mais aussi finalement dans l'analyse horoscopique, parce que toute la force de cette analyse vient en fait de l'interaction directe avec le praticien. Et donc, dans le cas du feng shui et de l'horoscopie, on peut voir que le lieu est important. Mais c'est moins la qualité qui est associée à un territoire, comme par exemple dans le cas du dieu local de Wenzhou. C'est moins cette qualité qui est recherchée qu'en fait la présence physique de personnes dans un même lieu. Alors, ces pratiques à distance posent également la question de l'offre divinatoire en France, c'est-à-dire des spécialistes. Est-ce qu'il y a des spécialistes en France ? Ça va être la deuxième partie de mon exposé. Et je me suis demandé dans quelle mesure un devin qui travaille en France doit adapter sa pratique. Est-ce qu'il procède en Chine comme en France ? Alors, plusieurs écoles s'affrontent sur la question du calcul de l'horoscope qui se font sur la date de naissance. Alors, certains praticiens en Chine, donc qui sont minoritaires, considèrent que c'est une technique chinoise qui ne peut être juste qu'en Chine, c'est-à-dire avec le temps, calculé avec le temps chinois. Ainsi, ils refusent de calculer pour les étrangers, par exemple, et également de modifier la date de naissance de l'étranger avec le décalage horaire. Mais la plupart des praticiens soutiennent que l'horoscope est lié en fait à la position de la Lune et du Soleil au moment de la naissance, et donc il faut conserver l'heure de naissance du pays. Donc en France, on prend l'heure française, en Chine, on prend l'heure chinoise. Et donc c'est l'opinion de Monsieur Wen, un praticien que j'ai rencontré, qui est âgé d'une soixantaine d'années, qui vit en région parisienne. Il est originaire de Fuzhou et est arrivé en France en 1991. Et donc depuis cette époque, il donne des consultations surtout d'horoscopie et de feng shui dans les milieux des entrepreneurs chinois. Et ces derniers temps, beaucoup pour les grossistes en prêt-à-porter d'Aubervilliers. Alors pour M. Wen, sa pratique et ses calculs sont les mêmes qu'ils soient en Chine ou en France. On peut dire que c'est l'expression technique d'une conception universaliste de la divination chinoise. Je m'explique. Le feng shui et l'horoscopie s'appuient sur des coordonnées de l'espace et du temps qui, on peut dire, sont des données universelles. Elles peuvent être donc appliquées partout. Et M. Wen voyage dans toute l'Europe, en Italie, en Espagne, au Portugal, pour donner des consultations de feng shui. D'autres techniques, cependant, nécessitent des adaptations. Ainsi, M. Wen utilise une correspondance entre l'alphabet latin et les agents chinois, donc le métal, bois, eau, feu, terre. Comme ça, il peut conseiller les restaurateurs chinois à la fois pour le choix du nom chinois, mais aussi pour le choix du nom français de leur restaurant. Et donc, c'est de telles conversions au système de correspondance offrent une grande souplesse à ces systèmes divinatoires qui peuvent ainsi être appliqués à des champs nouveaux ainsi que dans le contexte d'une langue étrangère. On peut conclure ainsi que les pratiques divinatoires chinoises sont des pratiques qui sont localisées dans le sens où chacun se réfère à une situation et à un espace-temps particulier, mais elles sont universelles car, selon la plupart des praticiens, elles peuvent être appliquées partout grâce à des systèmes de correspondance. Un autre problème se pose aux devins chinois qui travaillent en France, c'est celui de leur légitimité. Comment assurer aux clients que l'on fait partie des praticiens érudits et non pas des charlatans ? En France, comme en Chine d'ailleurs, les praticiens tirent d'abord leur légitimité de l'inscription dans une lignée de maîtres. Et Monsieur Wen, dont j'ai parlé, est lui-même issu d'une famille de lettrés spécialistes de divination. Donc son grand-père, son père, lui ont transmis leur savoir, ainsi que ses outils de travail, principalement une boussole de géomancien et des livres et des cahiers de notes. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'en Chine, les devins complètent souvent leur formation par des longs voyages à travers la Chine ou jusqu'en Asie du Sud-Est. Ils s'instruisent auprès de différents maîtres. Mais ce qui frappe en France, c'est que les praticiens ont très peu de contact avec leurs homologues chinois. Ils sont en fait isolés, et cela pose la question de leur formation continue, en quelque sorte. On peut se demander si l'éloignement géographique affecte leurs compétences. Alors, pour les entrepreneurs et les commerçants chinois de France qui ont besoin d'un devin sur place pour le feng shui, on peut dire que le bouche à oreille et une clientèle locale nombreuses sont des gages d'expertise qui sont suffisants. Mais par contre, pour les étudiants ou les jeunes professionnels chinois dont j'ai parlé précédemment, qui eux retournent régulièrement en Chine, ils trouvent que les praticiens de France sont bien loin de la vitalité que connaît ce secteur. Alors à Taïwan depuis les années 90 et en Chine populaire depuis les années 2000. Et comme le dit Chi Mei, les devins chinois en France sont arriérés car ils ont quitté la Chine depuis trop longtemps, leur art est dépassé. Ainsi, toujours M. Wen, dont j'ai parlé, n'est retourné en Chine que 4 ou 5 fois depuis qu'il est en France, c'est-à-dire depuis 25 ans. Et donc, il a une boussole de géomancien, des cahiers de notes hérités de sa famille et un vieux calendrier de Hong Kong. Et c'est tout ce dont il a besoin, en fait, pour travailler. Et également, un élément intéressant, c'est que les praticiens de France ont très peu de contacts entre eux. Et M. Wen, par exemple, sait qu'il existe quelques spécialistes de divination à Paris, mais il dit ne pas les connaître. Dernier point que j'aimerais aborder sur les spécialistes, c'est celui de la transmission. Alors, les praticiens que j'ai rencontrés en région parisienne ont tous été formés en Chine, et on peut se demander, est-ce qu'on peut imaginer qu'un praticien soit formé en France ? Est-ce que ce savoir se transmet ? Alors, le cadre le plus courant de la transmission, c'est celui de la relation de maître à disciple. Alors en Chine, les maîtres ont de nombreux disciples, parce que ce sont des savoirs qui intéressent les gens. Mais par contre, ils sont tellement complexes qu'il est en fait très rare que parmi tous ces disciples, il y en ait un qui devienne lui-même un spécialiste. Et donc en France, la chance d'avoir un disciple qui devienne un spécialiste est encore réduite du fait de la faiblesse de la population chinoise de manière comparative. Et donc l'employé du salon de massage dont j'ai parlé, qui a recommandé M. Wang, était elle-même son disciple. Il lui enseignait quelques techniques, et donc ce monsieur Hong a également une dizaine de disciples. Mais donc cette jeune femme, elle a arrêté au bout de 2 mois car en fait elle ne s'entendait pas avec monsieur Hong. Enfin, dernier point, la langue reste une barrière importante dans la diffusion de ces savoirs, même si les praticiens font preuve d'une ouverture pragmatique. Ainsi, ils peuvent tout autant conseiller des Chinois que des Français. Mais dans ces cas-là, il faut souvent un traducteur. En effet, M. Wen, qui est pourtant en France depuis plus de 25 ans, il ne parle presque pas français. Et il m'a d'ailleurs proposé que nous collaborions pour ouvrir un cours sur la divination chinoise qui serait destiné à la fois à des étudiants chinois et français. Donc pour transmettre ce savoir. Alors, je vais conclure en revenant sur ce faible nombre de praticiens en France, qui s'explique, je pense, par la structure de ce marché des services divinatoires. En effet, ce marché est composé de spécialistes isolés qui entrent en compétition pour attirer une clientèle. Et donc un marché qui est sensible aux mécanismes de l'offre et la demande. Et finalement, on peut penser que c'est la faiblesse de la demande qui entraîne finalement le faible nombre de praticiens en France. Et cela d'autant plus qu'une partie de la clientèle, comme je l'ai expliqué, est captée par les devins de Chine. Même si les devins français ont une sorte de monopole en fait sur le feng shui. Autre point, le marché des services divinatoires en France semble peu influencé par le cadre légal et institutionnel français. Alors, c'est vrai que les praticiens français n'ont pas à subir des interdictions périodiques comme leurs homologues chinois, où leurs activités sont périodiquement interdites par les pouvoirs. Mais en France, ces praticiens sont soumis au règlement de l'administration fiscale. Et le fait que la plupart ne déclarent pas leurs revenus issus de cette activité fait qu'en fait, ils sont dans une zone grise entre la légalité et l'illégalité. Enfin, dernier point, à travers ces différents cas qui concernent autant les pratiquants que les praticiens, j'ai cherché à montrer que ce cadre divinatoire offre un espace de négociation entre le local et le local et le global, qui s'exprime principalement sous une forme technique. Et c'est justement la malléabilité de ces techniques qui permet de répondre aux problèmes que ne manque pas de susciter la pratique à distance d'une religion locale ou encore l'irruption de croyances locales sur un territoire étranger. Ainsi, le fantôme qui a dérangé ses employés du salon de massage, c'était en fait un fantôme français, mais qui a pu être maîtrisé grâce à une technique chinoise. Donc on voit bien la malléabilité de ces techniques. Et inversement, les Français qui voyagent à Taïwan apprendront avec soulagement que les fantômes taïwanais ne s'attaquent pas aux étrangers. Donc ils peuvent y aller en toute tranquillité. Donc je vous remercie.
Alors, on est depuis ce matin sur des religions des Chinois en France. Moi, je vais vous parler plutôt d'occidentaux qui s'intéressent à des religions chinoises et en l'occurrence au taoïsme. Donc, on va essayer de respecter effectivement le timing et d'aller assez rapidement. Le contexte, donc, mon travail est part de...
C'est bon, on a le temps.
Oui, on a le temps, mais j'ai beaucoup à dire. Mon travail fait partie d'une partie de ma recherche sur justement les fabriques du taoïsme en France et en Europe, où j'essaye de regarder comment le taoïsme a été conçu, reçu en France et en Europe depuis à peu près 4 siècles. L'objectif étant de comprendre l'intérêt grandissant qu'il y a aujourd'hui pour le taoïsme justement en France et en Europe, et ça part d'une expérience de participation observante et non d'observation participante au sein d'un groupe de taoïsants français, je reviendrai peut-être sur le terme tout à l'heure, depuis une vingtaine d'années, et une vingtaine d'années que je passe aussi dans le milieu des arts martiaux chinois, du Qigong et de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, une particularité, c'est qu'on ne peut pas découpler le taoïsme français ou l'intérêt français pour le taoïsme de celui que l'on a en Europe, puisqu'on a des phénomènes qui sont extrêmement proches. On ne peut pas le découpler de l'histoire des relations entre l'Europe et, entre l'Occident, pourrait-on dire, et la Chine, pas plus que de l'évolution du champ religieux occidental. Et au travers de ça, ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement, la question de la réception du taoïsme en Occident fait un peu un prisme par rapport aux évolutions religieuses de l'Ouest. Alors, je vais aller assez rapidement. D'abord, vous rappeler quelques données sur les relations entre la France et le taoïsme, qui sont une longue histoire de presque 3 siècles. Quels sont les moyens aujourd'hui au travers desquels le taoïsme se diffuse en Occident, pour vous présenter ensuite un petit peu le paysage taoïste ou taoïsant français, au travers des associations, au travers d'un certain nombre de personnalités marquantes et au travers de ce qu'on pourrait appeler l'institutionnalisation du taoïsme, avec une interrogation, quel taoïsme pour les Français, avant de conclure. Si on regarde les relations entre la France et le taoïsme, la première mention de Lao Tzu qu'on voit dans un texte, non pas en français mais en latin, date de 1687, où le Confucius Sinarum Philosophus, tout un programme, présente en introduction la secte de Lao Kyun pendant à peu près une dizaine de pages. C'est la première mention. C'est pas un Français, c'est un Belge, Philippe Couplet, qui est un jésuite et qui réalise ce travail. On a après, au XVIIIe siècle, entre 1702 et 1776, toute la série des lettres édifiantes et curieuses publiées par les jésuites, où on va avoir un certain nombre de mentions sur le taoïsme. Donc on a une vision au départ qui est une vision qui vient des jésuites et qui est évidemment très déformée. Au XIXe siècle, les choses changent un peu et on a toute la partie, entre guillemets, de la sinologie laïque avec Abel Rémusat. Le premier texte qui est traduit en langue occidentale est le Taishang Ganyinpien, qui est présenté comme un ouvrage taoïste majeur. C'est vraiment le travail de Rémusat, qui ensuite va publier un mémoire sur les opinions, sur la vie et les opinions de Lao Tzu. Alors, il est évident, quand on regarde ça avec une vision sinologique quelques années, quelques siècles après, c'est parfois assez surprenant. La première traduction du Lao Tzu date de 1842, et c'est Stanislas Julien, et c'est une traduction qui est encore assez intéressante à lire. Et le premier ouvrage sur le taoïsme, c'est Léon Droni à l'EPHE, qui publie la première, et là, il y a vraiment une vague d'intérêt pour le taoïsme dans tous les pays européens. On trouve même des articles dans des journaux en Roumanie sur le taoïsme dans les années à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Après, on a le Zhuangzi qui est traduit, puis Le premier ouvrage grand public, pourrait-on dire, sur le taoïsme, apparaît en 1965, donc on voit que c'est assez récent, avec une publication dans la collection Que sais-je chez PUF par Nicole Vandier-Nicolas. Et après, en 1973, Christopher Schipper commence son enseignement à l'EPHE. Et on arrive au XXIe siècle avec la création d'une association taoïste française en 2002 et le premier séminaire de pratique taoïste en France dirigé par un maître chinois. C'était il y a exactement 15 jours dans le nord de la France. Voilà. Donc ça, c'est un petit rappel pour vous donner un petit peu une idée de la façon dont les choses se passent. Quels sont les moyens de diffusion ? Allez regarder assez rapidement. Il y a 4 vecteurs de diffusion du taoïsme aujourd'hui. C'est d'abord la culture, entre guillemets, littéraire et intellectuelle, qui voit essentiellement le taoïsme comme une philosophie un peu intemporelle. C'est un travail qui se fait essentiellement au travers des traductions, et les traductions sont majoritairement dominées par les traductions du Lao Tzu et du Chuang Tzu. Le reste, il y a des traductions du Li Tzu, elles ne sont pas très bonnes, de Gehrong, du Huainanzi. Alors après, est-ce qu'ils sont taoïstes, pas taoïstes ? On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est considéré de façon générale comme étant des ouvrages taoïstes, mais le Chuang Tzu et le Lao Tzu sont vraiment dominants, le Chuang Tzu depuis finalement assez peu de temps. Ensuite, on a tout le travail de vulgarisation sinologique, dans lequel on pourrait mettre l'exposition La Voix du Tao, qui s'est tenue en 2010 en France, et qui est la première et la seule exposition européenne à avoir été consacrée au sujet, après l'exposition qui avait eu lieu aux États-Unis sur Taoism and the Heart of China, qui avait eu lieu à New York et à... Je crois que c'était Chicago, il y a eu Los Angeles, à Chicago, pardon, et Los Angeles en 2000. Voilà, qui était vraiment la première exposition mondiale en Europe. On pourrait mettre également les musées avec beaucoup de points d'interrogation et puis tout ce qui tourne autour des conférences animées par les sinologues dans des sites qui ne sont pas forcément des sites purement universitaires ou sinologiques. Le deuxième vecteur de traduction, de diffusion, ce sont les pratiques du corps et tout ce qui apparaît un petit peu aujourd'hui au travers de la médecine chinoise, des pratiques d'arts martiaux, du Qigong, du Tai Chi Chuan. De l'alchimie interne, il y a un grand intérêt depuis 5 ou 6 ans pour le Neidan. Alors qu'est-ce qu'on met sous le Neidan en Occident ? On ne va pas rentrer dans le débat parce que ça serait très très long. Et puis tout ce qui relève des techniques de développement personnel, qui relève essentiellement des thérapies post-psychanalytiques américaines depuis à peu près une trentaine d'années. Le troisième vecteur, c'est la culture populaire, où là, le taoïsme est un peu une espèce d'attracteur, d'accroche, pour les imaginations occidentales. Et là, on voit que le Yi Jing, le Feng Shui, les techniques sexuelles chinoises sont identifiées comme étant taoïstes. Et là, on a un espèce de sac dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi. On a beaucoup de manuels New Age ou de manuels de développement personnel. Les films américains également qui ont une certaine influence. Et toute la symbolique, je vais vous montrer quelques images, toute la symbolique du Taijitu qui apparaît dans la publicité, qui est utilisée dans la publicité et dans le design virtuel. Et puis le dernier vecteur de diffusion, qui est celui qui prend le plus d'importance aujourd'hui dans le monde occidental, et donc dans le monde français, et tout ce qui est Internet et les réseaux sociaux, où là on est vraiment hors de contrôle, c'est-à-dire qu'on a du meilleur et du pire. Alors, quelques exemples très très rapides. Donc, les traductions, on les a. L'exposition La Voix du Tao, on ne va pas rentrer trop dessus. Les pratiques corporelles, alors ça c'est intéressant parce que qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez Tao, Chi, Tai Chi Chuan. On mélange un peu tout. D'un autre côté, on a un ouvrage de Mantak Xia, Guérison par le Qigong taoïste. En bas, vous avez les exercices secrets des moines taoïstes et juste quelques exercices de Qigong. La médecine du Tao. Donc là aussi, on identifie Tao et taoïsme, on mélange l'ensemble, le Tao des émotions, et ça vient de sortir depuis à peu près un an ou deux, le Tao Te Ching du couple, le Tao Te Ching des parents. Alors c'est bien parce que l'auteur est parti sur une longue lignée, il peut développer ça assez régulièrement. Et puis au milieu, vous avez un groupe de pratiquants de Qigong français qui sont à Weibaoshan, qui étaient à Weibaoshan il y a 4 ans autour du docteur Yves Requena, on reviendra sur sa personnalité. Et en habit taoïste. Alors, culture populaire, vous avez des romans comme les chroniques du tarot de, qui sont présentées comme une autobiographie qui en réalité est un roman. Vous avez une BD et puis vous avez Tigre et Dragon où il y a quand même pas mal de citations et tout cet imaginaire est repris. Or dans les self-help books, alors là c'est assez fabuleux, on a le tarot du management, on a le tarot du cheval, on a le tarot de la bicyclette. Alors les Américains ont le tarot de Twitter, le tarot de poker, il y a tout ce qu'on veut. Et les ouvrages de sexual tarot, le Tao de la sexologie de Stephen Chang, et après on a les secrets de l'amour taoïste. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est quand même des ouvrages qui ont été tirés à plusieurs millions d'exemplaires aux États-Unis, et l'auteur Mantakshia en est à peu près à 60 ouvrages, dont 10 consacrés uniquement à la sexualité, puisque c'est ce qui marche le plus. Donc vous marquerez sexualité épanouie grâce au massage sexuel taoïste, ça c'est absolument évident. Et en plus ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'ouvrage ne cite que des ouvrages chinois, que des ouvrages indiens de tantrisme, il n'y a pas une œuvre chinoise qui est citée dans les références. Feng Shui Tao, bon, c'est assez amusant. Alors, les images sont toujours très intéressantes, en plus c'est la fin donc on peut se lâcher un petit peu. Dans la culture populaire, les usages du Tai Chi Tu, c'est assez intéressant parce qu'on a quand même la NPE qui fait l'effort sur deux logos de reprendre quand même la thématique du Tai Chi. Sur le deuxième logo bleu, je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre le bleu clair et le bleu foncé, il n'y a aucun problème, on est dans un Tai Chi. Bon, l'école de ski français, évidemment, Dulcolax et Strepsil, c'est quand même un peu plus problématique. Mais par contre, on a quelque chose de très intéressant, parce que d'âge deux en un, on a quand même la synthèse, c'est-à-dire que sémiologiquement, on n'a pas cette image. Et l'image du Tai Chi pour les publicitaires est vraiment quelque chose de très signifiant parce qu'elle permet de signifier le deux en un. Et d'âge deux en un, c'est vraiment, pour moi, c'était une bénédiction. Alors ensuite, on a le quatrième vecteur, donc le web et les réseaux sociaux. Alors quelques sites assez intéressants. Le premier, daotia.fr. Donc quand même quelque chose qui s'affirme comme le taoïsme entre guillemets français. C'est un charmant garçon qui fait des arts martiaux et où il mélange taoïsme, arts martiaux, philosophie, cuisine chinoise. Et là on a la, on pourrait dire la totale. À côté vous avez Lorient Tao, les mains taoïstes. Alors, c'est un auteur très intéressant, c'est un guérisseur qui ne connaît absolument rien au taoïsme, sauf qu'il a lu quelques extraits du Nei Ching et qu'à partir de là, comme il est guérisseur, il a estimé qu'il était taoïste occidental. Vous avez une école de médecine chinoise, l'école de la cour jaune, donc Huang Tingting, ça fait quand même référence à un ouvrage majeur, qui enseigne des méditations taoïstes dans une école de médecine à partir de mantras de Shenrezi. J'avoue que j'ai du mal à voir le rapport, mais bon, pourquoi pas. Et le record est battu par des bols taoïstes, qui sont des Long Ting. Et le brave homme, qui est un musicien français, est parti quand même en Chine 9 mois pour essayer de trouver l'origine de ces bols et il a décidé que c'était des bols taoïstes parce qu'il y avait un dragon dessus. Donc voilà ce qu'on trouve à peu près sur internet. Donc la pêche peut être miraculeuse. Or on trouve aussi quelques personnages assez intéressants. Alors à gauche vous avez quelqu'un qui est chez vous, Man Or, qui est un chinois qui est venu en France dans les années 60, qui a appris l'acupuncture française. Donc, qui ne connaissait pas trop les textes chinois, qui après est passé par un sino-américain qui est Mantakshia, et qui ensuite est devenu le disciple, mais je ne sais pas exactement dans quel cadre, d'un maître chinois du Wei Baoshan. Et vous avez quelqu'un d'encore plus intéressant qui est Chen Given, qui est une brave dame qui est arrivée en France, elle a aujourd'hui 90 ans, qui est arrivée en France, ses parents étaient mandarins et avaient des journaux à Shanghai. Et bon, c'est une musicienne, elle a bâti une pagode à Rambouillet. Elle se présentait dans les années 72, comme, en 1972, comme représentante du courant Zhengyi et du maître céleste en France. Elle a été candidate à la candidature deux fois aux élections présidentielles pour défendre les valeurs confucéennes. Donc on a toujours une grande logique. Et le dernier, je le garde pour la fin, Taoist Warrior, or Urban Taoist, c'est un artiste martial français qui, je vous laisse son pédigré, il se déclare héritier de la tradition du grand secret des montagnes Kunlun, je ne sais pas trop ce que c'est, et il dit avoir reçu trois fois le titre de maître céleste dans l'école Guikan, dans le roi Shanglingbao, qui a disparu depuis quelques siècles, a priori, et dans le Longmen Chuanzen. Alors, être maître céleste dans le Longmen Chuanzen, j'ai un peu de mal, mais ce n'est pas grave, on peut vraiment trouver les discours, ça passe sans aucun problème. Et puis vous avez deux associations qui sont des associations mondialisées, qui sont les représentants de Universal Tao et Ling Tao France, qui en gros diffusent la pensée et les séminaires de Mantakshya en France, et l'International Taoist Tai Chi Society, qui se contente de donner quelques cours de Tai Chi en Bretagne et en Bourgogne. Donc c'est pas très très loin. Alors le paysage français, assez rapidement, quand on regarde les associations officiellement déclarées en France en préfecture, qui font mention dans leur objet ou dans leur objectif au mot Tao ou au mot taoïsme, on a aujourd'hui 538 associations sur l'ensemble du territoire français. On voit qu'on a une croissance qui est assez forte, puisqu'en juin 2011, on était à 362, pardon, et on est pratiquement à 45-50% de plus aujourd'hui, 5 ans après. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce sont des associations qui sont majoritairement dans le domaine des arts martiaux et des sports, un peu moins dans le domaine de la culture et un petit peu dans le domaine de la santé, où elles servent souvent, je dirais, de couverture à des praticiens de médecine chinoise. Et la localisation est essentiellement, majoritairement, dans le sud de la France ou les régions du sud de la France. En gros, elles représentent deux fois plus que la population locale. Alors, maintenant, on va regarder quelques personnalités représentatives du taoïsme que j'ai classées un peu en quatre grandes séries. D'abord, les enseignants chinois. Alors, c'est intéressant parce que c'est des enseignants qui, à 20 ans, on m'a présenté comme étant des enseignants taoïstes. Quand je les ai interviewés, on me dit « moi, je ne suis pas taoïste ». Le premier est le docteur Liu Dong, qui est un maître de Qigong, avec une transmission familiale, qui est devenu médecin en Chine. Il a soigné les personnalités, puisqu'il a soigné la fille de le fils de Deng Xiaoping. Il a été obligé de quitter la Chine en 89 après Tiananmen. Et il enseigne la médecine chinoise aujourd'hui à Paris et aux USA, mais il se considère d'abord comme un médecin et pas du tout comme un taoïste. Zhu Tinghong est très intéressant aussi parce que c'est aussi un maître de Qigong qui est arrivé en 89 à Paris, où il enseigne des techniques de Qigong. Il a traduit le Lao Tzu, il donne des cours sur le Lao Tzu et le Yi Jing. Il est proche de la Fanzang Wu Chenzhen, qui est l'abbesse générale du courant de Chuanzhen. Mais comme il dit, on était du même village, donc je ne suis pas taoïste, je suis simplement du même village qu'elle. Et puis Zhang Kunling, qui lui aussi est un médecin de médecine chinoise, qui a étudié avec des moines chinois réfugiés à Kunming au moment de la révolution culturelle, qui est en train de traduire le livre de la Cour jaune, mais quand on l'interroge, il ne se considère pas non plus comme taoïste. Alors, après ces personnages, on a un certain nombre de Français qui sont soit dans le domaine des arts martiaux, soit dans le domaine des thérapies de la médecine chinoise. Donc, je vais passer assez rapidement. Les deux premiers sont parmi les introducteurs du Qigong en France. Il y en a d'autres. Le premier a découvert le taoïsme en 69, Georges Charles, à San Francisco. Et il a reçu une transmission et le titre de Tao She, donc de maître taoïste, de la part de son maître. Mais apparemment, c'était un titre de Tao She laïque. Il ne sait pas si c'est une transmission, il n'est pas capable de dire si c'est une transmission religieuse ou non, mais son maître, donc, qui enseignait les arts martiaux, lui a légué son école. Le deuxième a découvert le taoïsme à Taïwan, où il est devenu l'élève d'un taoïste retiré qui était un ancien officier des services secrets du Kuomintang, mais qui s'était retiré à Taïwan dans la montagne. Il a écrit plus de 25 ouvrages sur l'Ayurveda, les techniques de Qigong, la culture chinoise. Le troisième est intéressant, François Henry. Lui a appris uniquement en Occident au départ les techniques chinoises de Qigong et de Tai Chi Chuan, et il est devenu disciple du maître Yu Shuande, qui est un moine longmen qui était à Wudang. Il est devenu disciple officiel en 2003. Alors, une partie de la cérémonie est visible sur Internet et il doit m'envoyer, ça fait à peu près 3 semaines que je l'attends, la cassette complète parce qu'il ne sait absolument pas ce qu'il a dit. Ça, c'est une caractéristique. Les gens deviennent disciples, font des discours en chinois, mais c'est des discours où, en gros, ils répètent ce qui est écrit sur une feuille et transcrit en pinyin, plus ou moins approximatif. Ils ne savent pas trop les engagements qu'ils prennent. Le dernier, le docteur Rekena, est assez intéressant. C'est lui que vous avez vu tout à l'heure avec un groupe de Français à Wei Baoshan. Il a créé sa première école de Qigong en 1987. C'est un acupuncteur. Et son école est devenue aujourd'hui, à Aix-en-Provence, l'une des deux plus grosses écoles de formation au Qigong. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ça s'appelait l'Institut européen de Qigong, donc déjà européen, alors que c'était à Aix-en-Provence. Et puis après, maintenant, c'est devenu Institut européen de Qigong et de Yangsheng, il faut s'adapter à la technique. Donc on voit le lien avec les techniques de santé. Et lui a écrit une trentaine d'ouvrages à peu près. Et il est devenu en 2010 disciple laïque, là aussi, d'un moine à Wei Baoshan. Il y a deux montagnes essentielles pour les Français, c'est Wudangshan et Wei Baoshan. Quelques autres qui, là, sont plus, entre guillemets, taoïstes. Gérard Gouache, qui est un médecin acupuncteur et un psychanalyste également. Donc là, on est à la limite du domaine médical, du bien-être, qui est disciple d'un maître chinois, Tian Shanyang, qui a un petit temple à Barcelone. Et il organise un groupe de méditation à Mexico, où il réside, et à Paris, où il réside à moitié du temps, qui s'appelle le Tao du Cœur. Et il a fondé l'association mexicaine taoïste en 2014. Alors Jean-Pierre Krasinski me pose problème parce que je n'ai pas pu l'interviewer vraiment jusqu'à présent. Il se présente comme ordonné dans le courant taoïste Shan des Mille Pics. Alors j'avoue que taoïste Shan des Mille Pics, ça ne me pose pas problème, mais a priori par un disciple de Zhao Bishen. Donc là, je n'ai pas vraiment beaucoup plus d'informations, sauf qu'il diffuse très régulièrement une lettre Tao Sex Saint Tantra. Donc là aussi, on voit les glissements assez intéressants. Le docteur Tian Liujun, lui, est un Chinois, arrivé en France il y a 25 ou 30 ans. C'est un cardiologue. Il a une école de Qigong et d'arts martiaux à Paris. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il enseigne des techniques de soins taoïstes secrètes avec utilisation de mantras, de fous et également de mudras. Et c'est quelqu'un qui fait référence dans le milieu. Lui m'a carrément refusé une interview, mais les informations sont visibles sur son site. Ce sont des séminaires qui, pour deux jours, coûtent très cher, mais sont des techniques secrètes. Alors, de la part d'un cardiologue, je serais assez curieux de savoir exactement en quoi ça consiste, mais je n'ai pas pu l'avoir. Et la dernière personne est une personnalité très intéressante, Karine Martin, qui est devenue, après avoir découvert le taoïsme lors d'un séminaire de méditation avec la British Taoist Association à Londres, où elle travaillait, elle a passé 12 ans en Chine, où elle est devenue la première nonne occidentale, et elle a reçu une formation de Gao Gong complète. Et elle est de retour en France depuis à peu près un mois, et ça fait à peu près 3 semaines qu'elle a commencé à transformer un hangar familial qui lui appartient pour monter le premier temple taoïste en Europe. Donc ce qu'il y a d'avantageux quand on travaille sur ce terrain, c'est que pratiquement tous les 3 jours, on apprend de nouvelles choses. L'association taoïste française a été créée, j'allais vite, en 2002, par Karine Martin, justement, et Igor Serbeau, qui est, lui se présente comme prêtre longmen et qui a un maître longmen. L'objectif de cette association, et là on est dans le taoïsme entre guillemets institutionnalisé, était de promouvoir la culture taoïste dans tous les champs. Donc on voit la largeur du champ, philosophie, religion, médecine, sciences traditionnelles comme le Qigong, le Feng Shui, le Yi Ching. On retrouve toute la palette pratiquement des traditions chinoises, des cultures chinoises, y compris les arts énergétiques. L'équipe managériale a changé 5 fois en 12 ans. Ça représente à peu près entre 20 et 40 adhérents, donc pas de moyens. 2 ou 3 personnes, ce n'est pas les 2/3, c'est 2 ou 3 personnes seulement qui parlent chinois de façon à peu près courante, dont Karine. Donc une association quasiment inexistante au sens plein du terme. Donc il y a eu quelques événements, vous avez une très jolie photo de quelques occidentaux qui ont passé un mois au Bayongguan en 2013, en tenue taoïste, j'y étais, ça fait drôle, avec Zhen Fajong, mais c'était très intéressant sur le plan du terrain. On va passer assez rapidement là-dessus. Et Igor Serbeau, qui avait fondé l'association taoïste française avec Karine Martin, a créé sa propre association quand Karine Martin est partie en Chine. Et c'est cette association qui a invité Maître Meng Zheling à donner un séminaire à Paris avant de donner un séminaire à Bruxelles il y a à peu près 15 jours. Alors si on essaye de regarder très très rapidement les choses... Un intérêt réel pour le taoïsme, on peut se poser la question. En gros, on a un développement depuis les années 80, mais qui passe essentiellement par un intérêt pour la Chine, la pensée asiatique et les pratiques du corps, avec une réelle influence de la culture américaine, New Age, 60 à 80% suivant les secteurs des ouvrages qui sont diffusés sur le taoïsme en France sont des ouvrages qui sont traduits d'ouvrages américains. Et le label taoïste est essentiellement un point d'accroche pour, j'aurais tendance à dire, pour le marché. Et on a une confusion, je vous l'ai déjà dit, entre la pensée chinoise et le taoïsme. Donc la réalité du taoïsme en général est très méconnue, elle est incomprise, elle est reconstruite ou elle est carrément fantasmée ou rêvée. Mais il y a à côté de ça un certain nombre de gens qu'on ne peut absolument pas voir, qui sont invisibles dans les radars, qui peuvent être liés à tel ou tel maître chinois au sein de la communauté. Le mode de développement, il suit essentiellement l'intérêt pour la pensée chinoise et les pratiques du corps. Il n'y a pas de volonté missionnaire, il n'y a pas de prosélytisme de la part de la communauté chinoise. La diffusion se fait par contagion, elle se fait par osmose ou par capillarité, c'est-à-dire qu'on a une influence progressive qui gagne des champs, et au travers essentiellement de quatre réseaux, le réseau des pratiquants de médecine chinoise et des médecines naturelles, le réseau lié aux techniques corporelles, arts martiaux, qigong, et le milieu du bien-être, et puis tout ce qui touche à la spiritualité New Age. Des appartenances qui sont très très floues. En général, il y a des appartenances multiples, des pratiques qui sont très fluides, c'est-à-dire que les gens peuvent passer du zen au taoïsme sans aucun problème, voire à des pratiques bouddhistes avec beaucoup d'hybridation et de bricolage. Il y a une mode en ce moment du Tao Tantra. Très peu d'investissements individuels, très peu d'institutionnalisation, et ce que j'aurais tendance à dire consumérisme spirituel et consommation symbolique. Le taoïsme en France n'est pas une pratique religieuse, ou très très peu. Ce n'est pas une pratique de la communauté chinoise, ou très très peu, ni une tradition importée par les immigrants chinois. Alors, est-ce que c'est un remède pour les maux occidentaux ? J'aurais tendance à dire assez, avec une forte préoccupation des occidentaux qui sont ou qui se déclarent taoïstes ou taoïsants, autour de la préoccupation pour le soi, au travers d'une approche du bien-être et de la spiritualité, avec une recherche de guérison spirituelle, très influencée par l'impératif puritain de réalisation de soi, et une méfiance pour la religion institutionnalisée, avec une très forte ambivalence vis-à-vis de la société occidentale, vis-à-vis de la science, vis-à-vis de la tradition chinoise et vis-à-vis de la ritualité, qui sont à chaque fois convoqués et en même temps totalement dédaignés ou condamnés, mais que l'on utilise en permanence. Le pire étant pour moi l'ambivalence vis-à-vis de la société occidentale, qui la plupart du temps est totalement condamnée, mais en même temps on a un consumérisme spirituel qui est véritablement dans la recherche de mode. Donc le taoïsme français, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Paradoxalement, la réalité c'est qu'il y a pas mal de taoïsme, mais très peu de taoïstes, que c'est un taoïsme qui s'inscrit dans le processus de globalisation ou de transnationalisation du taoïsme, et qu'en même temps il s'inscrit dans un processus de occidentalisation du taoïsme que l'on a vu à l'œuvre aux États-Unis, notamment je pense à la thèse d'Elijah Sigler qui l'a bien montré. Et pour conclure très rapidement, on peut dire que pour la plupart des occidentaux, des Français et des occidentaux, le taoïsme est d'abord, tel qu'ils le ressentent, une boîte à outils qui permet d'offrir des ressources symboliques qui sont faciles à recombiner, à combiner avec d'autres concepts, pour l'excellente raison qu'il n'y a pas de dogme, qu'il n'y a pas d'orthodoxie, qu'il n'y a pas d'autorité dogmatique. C'est un label exotique d'authenticité, d'antiquité et de tradition. Et puis c'est essentiellement centré sur les pratiques de soi et les techniques de bien-être, pour faire face un peu aux problématiques de stress, d'âge, aux questions sexuelles éventuellement, et pour répondre à l'impératif de se réaliser. Mais pour un certain nombre, c'est une réelle pratique religieuse de salut. Donc la question qui peut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme de religiosité finalement un peu diffuse entre une sotériologie mondaine et puis une approche ultramondaine religieuse. Voilà. Merci.
Deux intervenants qui sont assez calés sur le temps, c'est formidable, donc on va pouvoir aller assez rapidement. Donc normalement, le modérateur doit s'effacer derrière les contributeurs, mais puisqu'on m'a envoyé les textes, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc ça va appeler deux ou trois petites remarques par rapport à chacune des contributions, et ensuite, après, je vais me permettre de laisser la salle s'exprimer fort heureusement. Donc par rapport à la première contribution, qui est celle qui traitait de la divination. Je trouvais quelque chose d'intéressant, mais j'imagine que vous aussi, cette espèce de lien distendu qui existe entre la divination pour la migration et la migration qui va changer la divination. C'est-à-dire on se trouve dans une sorte de polarité avec tout ce dispositif de prédétermination symbolique de la migration. Est-ce que la migration va bien se passer en fonction d'éléments qui sont des éléments astrologiques, qui sont des éléments cosmologiques, etc. Et puis ensuite, l'analyse, disons, historico-anthropologique qui va permettre de voir comment il va y avoir des déterminants, cette fois des déterminants sociaux, culturels, etc., qui vont changer la pratique de la migration. Donc première polarité que j'avais soulignée et qui était une polarité donc assez clairement énoncée dans la première contribution. Il ne faut pas que je perde mes notes parce que vous avez réussi à rester réveillé jusqu'à maintenant. Donc je vais essayer de vous maintenir encore. Ah oui, la deuxième chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est backward. Ils sont nuls ici. Alors où se situe la géographie morale de la modernité? C'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. C'est-à-dire, il y a toujours cette idée que la modernité est un facteur ou un paramètre ou un contexte de transformation qui va plutôt dans le sens d'une réinvention. Or, il se trouve que si on suit bien ce qui se passe, le moteur de la vivacité ou du maintien de ces pratiques de divination, c'est là-bas, c'est pas ici. Alors donc, où se trouve la modernité? Est-ce qu'elle se trouve dans la perpétuation et la réinvention de la divination là-bas? Puisqu'ici, il semblerait, troisième point et le dernier point, qu'on se trouve justement en contexte de déracinement dans quelque chose qui est de l'ordre de l'appauvrissement. Si je suis bien de l'appauvrissement à cause du délitement des liens sociaux entre les spécialistes. Or, pour faire référence à un certain nombre de choses que j'ai entendues ce matin, il semblerait que ce ne soit pas le cas pour toutes les pratiques spirituelles ou religieuses chinoises. Donc c'est des choses qui m'interrogent, mais ce n'est pas nécessairement des questions, c'est ce que m'éveille votre communication. Maintenant, je me retourne vers mon voisin de droite, et dont je trouve donc sur les modes de diffusion, on trouve énormément de similitudes évidemment avec le bouddhisme, des textes au contexte en passant par le corps, la transition par la culture populaire et la retranscription par le New Age. Effectivement, il y a énormément de choses qui correspondent, avec des arrière-plans imaginaires que moi j'aurais peut-être voulu un petit peu plus voir creuser, parce que il y a peut-être aussi quelque chose d'assez étonnant, et à tous les intervenants ici. Moi, je suis pas un spécialiste de la Chine, et la dernière fois que je me suis promené, c'était sur un terrain, c'était en Inde du Sud, au Tamil Nadu, justement au mois d'avril. J'étais pour des recherches sur d'autres choses. Et il y a une sorte d'équilibre étrange et paradoxal entre la sinophobie et la sinophilie, qui relève du danger que représente sur le plan géopolitique, économique, etc., une Chine qui se veut dominante, et d'un autre côté, une fascination tout à fait orientaliste, inscrite dans quelque chose qui est de l'ordre de la fascination de l'antiquité de ces pratiques. Donc, j'aurais aimé en savoir un peu plus sur le plan des représentations. Je m'amuse beaucoup du fait que la notion de Tao soit absolument similaire de celle de Zen. On a le Zen du sexe, le Zen de la cuisine, le Zen du cinéma, le Zen de ce que vous voulez. Donc, ça m'amène à l'ultime question. C'est, on avait promis quelque chose qui était de l'ordre de la questionnement des taoïsants, les fameux taoïsants. Alors, la labilité de la notion de Tao, est-elle un frein ou est-elle quelque chose qui va ouvrir à la réflexion par rapport justement à toutes ces appropriations, et des appropriations qui pourraient aussi être en arrière-plan inscrites dans un modèle d'altération, c'est-à-dire le taoïsme authentique de là-bas qui se trouverait un petit peu transformé ici. Alors donc, jusqu'à quel point appropriation fait altération et jusqu'à quel point on n'est pas non plus dans un modèle, je sais pas, un peu purifié du taoïsme là-bas, qui permet ensuite de dire, voilà, toutes les altérations, tous ces gens qui n'y connaissent rien. Effectivement, dans la plupart des cas, ils n'y connaissent rien, mais pour le bouddhisme aussi, la grande majorité des gens qui se revendiquent, beaucoup de gens qui se revendiquent bouddhistes ou maîtres d'eux, n'y connaissent pas grand-chose. Enfin, pour une certaine partie de la population. Et enfin, dernière question. Alors là, c'est la question piège et la question méchante. Ne faut-il pas inverser le titre? Du bien-être au salut, puisqu'on voit justement du bien-être au salut, ça veut dire qu'on est sur un processus de transformation. Et est-ce que c'est pas justement le contraire? C'est-à-dire, vu que ça nous parle de sexe, de cuisine, de cheval, de machin, de ci, de ça, etc. Est-ce que justement, on n'est pas dans une sorte de transformation, de traduction de la notion de Tao dans une idéologie du bien-être qui est devenue maintenant une idéologie dominante à cause justement d'un arrière-plan très, très terre à terre, matérialiste, consumériste. Voilà, j'en ai fini avec mes questions personnelles ou mes remarques, si vous me le permettez, et puis je laisserai ensuite.
Réponse sur le luoho, donc le mot qu'on utilise pour dire arriéré ou backward, qui est intéressant parce qu'en chinois, c'est un mot qui a une connotation, si je ne me trompe, qui était beaucoup utilisé à l'époque de la révolution culturelle, et qui en fait, luoho, ça veut dire. Surtout, il ne fallait pas être arriéré pour ne pas être considéré comme un contre-révolutionnaire et être condamné à toutes sortes d'atrocités. Et donc là, c'est intéressant parce qu'à cette époque, c'était justement toutes ces pratiques divinatoires qui étaient considérées comme arriérées et qu'il fallait surtout cacher et dissimuler pour ne pas être accusé d'être luoro. Et donc là, à l'inverse, c'est en référence à des pratiques qui seraient plus authentiques en fait en Chine qu'on fait référence donc à des pratiques en effet appauvries côté français. Donc voilà, en chinois il y a cette connotation qui est fortement politique et qui est liée aussi au mode à la cette modalité à cette modernité voulue par les communistes en fait. Voilà, donc
politique
chinoise. Voilà, donc juste une petite remarque.
Bon, alors moi j'ai commencé par la dernière, inverser le titre. Oui et non. Je pense qu'il aurait fallu peut-être un point d'interrogation tout simplement au titre. Alors pourquoi ? Sur le plan général, oui, il faut inverser le titre parce qu'on part d'une approche taoïste qui est une approche entre guillemets salvifique, quoique, et on arrive aujourd'hui en Occident dans une déclinaison qui est plus sur les technologies de bien-être finalement. Mais en même temps, et c'est là où peut-être le fait d'être le nez dans la thèse m'a fait un petit défaut, c'est qu'effectivement ce que je constate, c'est qu'on est en train d'inverser le processus, mais chez peu d'individus, c'est-à-dire que chez un certain nombre d'individus, on passe d'un intérêt pour le bien-être, entre guillemets, à une découverte de la Chine, et derrière à un véritable investissement dans une dimension qui est beaucoup plus religieuse. Le cas de Karine Martin en est, je dirais, est assez symptomatique à cet égard. Donc c'était le fait qu'effectivement, on commence à avoir l'émergence de quelque chose de cet ordre-là, alors qu'on n'a pas eu, comme dans le bouddhisme, des transmissions avec des moines qui étaient présents, notamment dans le bouddhisme tibétain, où là, on avait d'emblée cette recherche. Alors, il y a une chose qui, à l'inverse du bouddhisme tibétain, apparaît de façon très forte, c'est qu'il y a la barrière de la langue. Autant le bouddhisme est médiatisé par la langue anglaise, sans trop de problèmes, autant il faut apprendre le chinois si on veut pouvoir pratiquer le taoïsme. Et je me souviendrai toujours de la réflexion de deux nonnes, quand on est arrivé avec un ami à un forum taoïste, qui nous ont regardé en disant « Mais comment ? Oui, ils ne parlent pas chinois. » Alors, ce n'est pas taoïste, mais quand même, ils ne parlent pas chinois, ils viennent dans un forum. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent faire ? C'était vraiment la question. Et là, on a cette démarche avec des gens qui commencent à apprendre le chinois, qui essayent de faire un effort pour justement transmettre une culture, entre guillemets, plus authentique. Alors ça renvoie à la question de l'authenticité, appropriation, altération. On est systématiquement dans une altération, mais est-ce qu'il existe un taoïsme pur en Chine ? On peut se poser la question. J'aurais tendance à penser que non, compte tenu de la multiplicité des écoles dans lesquelles on se situe. On ne peut pas définir, il n'y a pas une orthodoxie qui permette de définir une pureté. L'arrière-plan imaginaire, effectivement, je ne l'ai pas développé ici, j'ai un certain nombre d'éléments. Et là, on est effectivement dans quelque chose de totalement paradoxal entre sinophilie et sinophobie, avec une influence encore très prégnante aujourd'hui de la pensée jésuite. C'est-à-dire qu'on en est encore dans certains cas, y compris dans des ouvrages de sinologues heureusement non spécialisés, dans des affirmations qui sont dignes des publications jésuites du XVIIIe siècle.
C'est bon ? Ouais. Donc c'est une question inspirée du terrain sur la médecine traditionnelle chinoise en Suisse, où d'abord le contexte promeut parce que il y a remboursement par les assurances médicales. Donc c'est beaucoup plus développé. Mais en fait, on avait vu qu'il y avait pas mal de migrants chinois qui rentraient dans le créneau sans connaître la médecine traditionnelle plus que moi, qui se formaient, mais parce que probablement parce que c'est une opportunité alors que le marché du travail est extrêmement fermé. Donc c'est une ethnicisation des savoirs qui est réappropriée par les gens. Et étant asiatique, ça pouvait marcher. Donc je voulais savoir s'il y avait des gens qui se lançaient dans les deux débouchés, parce qu'ils n'arrivent pas à faire valoir d'autres types de compétences par ailleurs.
Alors dans le cas de la divination, je dirais c'est ce que j'ai dit un petit peu dans la présentation, c'est que à mon sens en fait il n'y a pas assez de demandes en fait en France pour qu'il y ait beaucoup de praticiens. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vu de Chine, en fait, les devins chinois, ils voient en fait l'Europe ou l'Occident globalement comme un Eldorado en fait pour les devins, parce qu'ils s'imaginent être, enfin, ils sont réprimés par le gouvernement pour des raisons idéologiques. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en Europe et en France en particulier, il y a exactement la même idéologie, je dirais, où eux se revendiquent comme des scientifiques. Et donc les devins français, les astrologues français ne sont pas plus reconnus qu'eux ne le sont en Chine. Et en fait, ça, ils ne se rendent pas du tout compte. Ils ont l'impression qu'en Chine, ils sont réprimés parce qu'il n'y a pas de liberté, de liberté d'opinion. Et ils s'imaginent qu'ils espèrent pouvoir émigrer un jour pour pouvoir développer leurs activités et lancer des cours et en fait s'enrichir. Et les devins qui effectivement travaillent en France, ils se rendent compte que le paysage institutionnel français leur est pas du tout favorable. Ils sont pas accueillis à bras ouverts pour faire des conférences dans les universités comme ils espèrent. Donc en fait la réalité du travail pour eux elle est assez proche, je trouve, en Chine et en France, c'est-à-dire qu'ils sont dans ce que je dis cette zone grise où ils sont tolérés, ils peuvent exercer assez discrètement puisqu'ils payent pas leurs impôts. Donc voilà. Et alors un autre point, c'est est-ce que ça peut attirer des gens qui ne trouveraient pas de travail par exemple en France? Alors c'est un processus qui est très courant en Chine, je dirais, c'est un débouché en fait, mais ça veut dire qu'on a déjà des savoirs, parce que c'est des savoirs qui sont extrêmement longs à acquérir. Il faut, un devin dira qu'il faut au moins 10 ans d'apprentissage et de pratique pour pouvoir enseigner. Donc dans les faits, il n'y a personne qui le fait. Tous ceux que j'ai rencontrés ont été formés en Chine d'une transmission souvent familiale, donc des savoirs anciens. Et les disciples qu'ils ont eu en France, ce sont des gens qui sont intéressés, je dirais d'abord pour un intérêt personnel. Ils sont intéressés de pouvoir lire eux-mêmes leur avenir, voilà. Mais pas pour travailler. Voilà.
Pour prendre le relais sur le milieu des arts martiaux, c'est plus difficile parce qu'il faut des maîtrises de technique et on voit tout de suite si la personne pratique ou pas. Par contre, dans le domaine du Qigong, c'est clair qu'il y a, je dirais, de l'arnaque à tous les niveaux. Je connais des secrétaires qui n'avaient jamais fait du Qigong, qui ont lu un bouquin et qui sont devenus profs dans une des plus grandes écoles de Paris. Après, les gens commencent à avoir l'habitude, donc arrivent à faire la différence. Mais vous allez à la journée porte ouverte, on parle d'ethnicisation, mais il y a aussi effectivement un phénomène de néo-orientalisme. Vous allez à la journée porte ouverte de cette école, vous avez un enseignant chinois en tenue chinoise, entre guillemets, traditionnelle, la salle est pleine. Vous avez un enseignant occidental qui est 10 fois meilleur en survêtement, il y a 3 personnes dans la salle. Les gens attendent ça, donc après, mais il y a effectivement un recrutement, c'est un débouché pour un certain nombre de Chinois qui n'ont pas forcément d'autres ressources, ou même des petites traditions familiales. Mais oui. Après, il faut explorer le marché, mais je pense qu'en Chine, c'est exactement la même chose. Bon, c'est un peu difficile de préciser parce que chaque cas est vraiment un cas particulier. Les 3 que j'ai mentionnés, c'est assez intéressant parce que ce sont des gens qui sont installés en France depuis longtemps et qui ont été parmi les premiers à enseigner des techniques de Qigong dans des écoles françaises à un public occidental. Et à l'époque, c'est des taoïstes. Bon, ok, c'est des taoïstes. En quoi c'est des taoïstes? Ça, c'est une question, la meilleure question à poser quand on dit c'est des taoïstes, et en quoi ils sont taoïstes? Là, en général, il n'y a plus de réponse, mais chacun a eu effectivement un contact, soit familial. Par exemple, Zhu Tingrong, moi j'ai découvert un jour qu'il était allé voir la Fanzhang Wushenzheng et qu'il lui avait porté le catalogue de l'exposition La Voix du Tao, ce qui a valu une calligraphie à la commissaire de l'exposition. Il dit, tiens, c'est intéressant, je ne savais pas qu'il avait ce type de liaison. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit, bah oui, on est du même village comme le moine bouddhiste, un grand moine bouddhiste chez qui il va aujourd'hui faire des séminaires parce qu'ils sont du même village. Donc il me dit, oui, ma tante pense peut-être que je suis taoïste, mais avant tout, c'est un pratiquant de Qigong. Le docteur Liu Dong, c'est d'abord un médecin, même si son grand-père lui a transmis un certain nombre de techniques. Aujourd'hui, il enseigne des techniques, c'est les paumes du mille bouddhas, c'est pas des techniques entre guillemets taoïstes. Donc, j'allais dire, pour eux, c'est pas une question. Mais à la limite, pour très peu de Chinois, l'affirmation « je suis taoïste », sauf si on est un moine ou un disciple laïque d'un maître taoïste, on ne se présentera pas comme taoïste. Et même dans les rues de Pékin, quand vous croisez, quand vous sortez du Baiyongguan, les gens regardent les moines taoïstes chinois parfois un peu bizarrement, surtout s'ils sont très jeunes. Alors si vous êtes occidental avec un habit taoïste, là, vous avez droit à la série de photos, c'est assez amusant. Mais même les moines chinois sont regardés dans le supermarché. Bon, si on sort un petit peu de la zone autour du Baiyongguan, tiens, c'est qui Donc il y a... Il y a vraiment des choses très différentes. Alors, comment ils sont considérés dans le milieu français? La plupart du temps, les contacts interpersonnels sont très rares. C'est-à-dire que des gens sont liés ou ont appris du Qigong ou du Tai Chi Chuan ou des arts martiaux avec tel ou tel enseignant. Et en général, ils ne sortent pas de leur école. Ils vont voir éventuellement une ou deux fois un séminaire ailleurs. Mais les gens sont très mono-école, tout en faisant à côté d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout à fait aller dans un centre bouddhiste tibétain, faire du zen, faire du yoga, mais ils vont rester avec le même enseignant de Qigong quand ils restent avec lui, parce que j'allais dire qu'il y a parfois aussi une volatilité, exactement comme dans les cours de gymnastique. On s'inscrit au mois de septembre, au mois de décembre, la moitié des inscrits ne sont plus là.
Merci beaucoup. On va peut-être prendre éventuellement une dernière question, puis laisser place s'il y a encore des forces vives. Alors, une question de la table à la table.
Oui, est-ce qu'il existe des temples taoïstes créés par des Chinois en Europe? Donc, il n'y en a pas en France, j'ai compris, mais est-ce qu'il y en a... Et donc, quel est en fait ce lien au territoire qui explique qu'on trouve des temples bouddhistes et pas des temples taoïstes?
Il n'y a pas de lien au territoire. Pour faire l'histoire des temples taoïstes en Occident, très rapidement, le premier a été créé par un Italien, qui s'appelle Vicenza di Jesu, ça ne s'invente pas, à Caserte, au fin fond de l'Italie. Et lui a été initié dans un courant martial dans les montagnes Wudang dans les années 85. Et il se présente comme... Alors lui, il a créé l'église taoïste italienne et il essaye d'avoir une reconnaissance par le gouvernement italien. Après, il y a eu un projet de temple en Suisse, qui n'a pas abouti parce que malgré les soutiens verbaux de beaucoup d'associations chinoises, personne n'a mis la main au porte-monnaie. C'est quand même un projet à 7 millions d'euros. Ça donne tout de suite une idée de l'ampleur. Après ça, alors il y a un temple, mais c'est Pan qui pourrait en parler mieux que moi parce qu'il a pu le discuter avec... Il y a à Barcelone un temple qui est un temple Wenzhou qui fait 400 mètres carrés et dont le... gestionnaire entre guillemets du temple et à la fois bouddhiste et appartient à une école taoïste très, très mystique qui est celle de Lushan. Mais il n'est pas vraiment. Alors, je ne sais pas. Il n'a pas pu le voir. Il n'a pas interrogé. Mais a priori, il pratique des rituels exorcistes et il a plusieurs personnes autour de lui. Autrement, il y a un moine chinois, Tian Shenyang, qui a. Mais on ne peut pas appeler ça un temple. C'est-à-dire un appartement dans lequel il a mis une statue d'un Lao Tzu. Je ne sais même pas ce qu'il a. Enfin, vraiment, c'est un appartement de 40 mètres carrés à Barcelone. C'est à peu près tout ce qu'il y a.
Que par exemple les associations, les Huiguan en France, qui sont à l'origine des temples, des divers temples qu'on connaît aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'au final les personnes ont voulu construire un temple en faisant venir des moines taoïstes?
Je pense qu'il y a un désintérêt, tout simplement, parce que dans les Huiguan, ils sont attachés à l'aspect Wenzhou, Tianjiang, Zhaozhou, et que faire un temple taoïste ne semble pas vraiment être, faire partie d'une priorité, mais ça renvoie plutôt à la structure du taoïsme chinois, je pense, qu'autre chose. Et on est quand même sur beaucoup de Chinois qui sont quand même très occidentalisés, où beaucoup sont quand même dans les églises évangéliques, évangélistes ou chrétiens. Donc il n'y a pas, me semble-t-il, même à Barcelone. Moi, j'ai eu une surprise quand j'ai vu l'ouverture du temple sur la télévision espagnole, où on voyait effectivement qu'il était en moine taoïste à ouvrir ce temple. Et puis, il a assisté au défilé du Nouvel An à Barcelone. Il portait une robe de moine bouddhiste. Et quand on va dans le temple, c'est clairement un temple Wenzhou. Alors après, que l'officiant soit à certains moments bouddhiste, à certains moments taoïste, c'est pas une construction spécifique. Les seuls temples qui ont été, entre guillemets, construits ou en projet par des... en tant que le temple taoïste, sont des temples voulus par des occidentaux. Alors avec le cas de Karine Martin, qui va être assez spécial, parce qu'à Montluçon, faire un temple, c'est peut-être un peu loin des diverses communautés chinoises.
Merci beaucoup. On va finir donc la discussion de ce tour de...